Radio Okapi.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Voici les principaux titres du journal. Goma confronté à une pollution alarmante due aux engins de guerre abandonnés. 20 victimes recensées dont 6 morts. 24 zones explosives déjà identifiées. La synergie de lutte anti-mine et d'autres ONG lance une campagne de sensibilisation. Matadi face aux embouteillages persistants. Les transporteurs et les entreprises de véhicules poids lourds sont sensibilisés sur les nouvelles mesures de l'autorité urbaine. Ces actions visent à fluidifier la circulation dans le chef-lieu du Congo central. Épidémie de peste en Ituri, 24 cas positifs et un décès depuis avril. Les efforts de l'ONG maltésère limitent la propagation. Entretien dans ce journal avec Dr Gustave Lossa, coordonnateur du Centre de surveillance et de lutte contre la peste en RDC. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Gisèle Cage à la présentation. La ville de Goma au Nord Kivu est en proie à une grave pollution due aux engins de guerre abandonnés après les affrontements entre les FARDC et le M23. Ces engins ont déjà causé une vingtaine de victimes depuis le début de l'année, dont 6 morts, avec 24 zones identifiées comme contenant des explosifs. La situation est alarmante. Pour faire face à cette menace, la synergie de lutte anti-mine SILAM et d'autres ONG de déminage ont lancé une campagne de sensibilisation et d'éducation au risque des engins explosifs. Leur objectif est de protéger les communautés en les informant des dangers et en les prévenant des accidents liés à ces engins. Marion Gavo, coordonnateur national de la SILAM, souligne l'importance cruciale de cette sensibilisation pour la sécurité des habitants.
Déjà, des accidents sont signalés ça et là dans les territoires de Nyiragongo, de Masisi, de Rutshuru, dans la ville de Goma récemment aussi. La population confond les munitions avec les objets que nous utilisons couramment. Une roquette peut ressembler à un pilon. Une cartouche ressemble à un crayon. Une grenade à main ressemble à un ananas. Des mortiers qui peuvent ressembler aux poissons et la population fait des confusions avec ça. C'est pourquoi la SILAM, avec les autres organisations DCA, AfriLAM, comme SIOPADI, ont demandé des permissions pour commencer à sensibiliser les populations et peut-être l'autorisation pour le déminage pourra venir après. Donc, nous disons à la population, quand ils voient des engins qui ressemblent aux effets militaires, de ne pas les toucher, de ne pas y jeter quelque chose que ce soit, d'informer les ONG en charge du déminage pour que nous puissions essayer d'écarter les dangers, parce que quand il y a explosion, on devient handicapé, il y a la mort.
C'était Marion Gavo, coordonnateur national de la SILAM, la synergie de lutte anti-mine. Dans la même région, cette fois, dans le territoire de Walikale, les habitants de Pinga sont contraints de parcourir des dizaines de kilomètres à pied pour trouver une connexion de téléphonie mobile. Depuis 2 semaines, en effet, cette région est totalement déconnectée du monde en raison de la coupure du réseau des téléphonies mobiles. Vodacom, l'unique opérateur dans cette zone, attribue cette interruption à l'accès difficile pour ravitailler ses antennes en carburant. Ainsi, Pinga et ses environs sont isolés. La société civile locale alertant sur ces calvaires plaide pour un rétablissement urgent de la connexion, surtout en cette période de crise où la population a besoin d'être informée sur les événements du pays. Boyomba Safari, vice-président de la société civile de Pinga, joint par téléphone, décrit ce calvaire.
Pour l'instant, la population de Pinga vit un calvaire trop grave. Vodacom, les seules raisons qui restaient en train de servir cette pauvre population frappée par la situation d'insécurité et d'incertitude. Il faut savoir qu'à partir de cette connexion-là, les enseignants, il y a aussi d'autres opérateurs économiques qui doivent faire leurs opérations à partir de la connexion via M-Pesa et tout consort. Donc, vous voyez déjà que la population souffre lamentablement. Donc, nous demandons au patron de Vodacom de bien vouloir faire de tout leur mieux de rétablir la connexion, en fait, de désenclaver cette population qui n'a aucune information sur l'actualité. Alors, nous Cyprio, nous demandons les autorités compétentes de bien vouloir s'impliquer pour que cette cause soit résolue.
Le responsable de Vodacom annonce qu'ils communiqueront dans les prochaines heures et dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, la MONUSCO, en collaboration avec l'ONG locale, le Marchons Ensemble et sûrement dans l'assistance scolaire et humanitaire, a lancé vendredi un projet éducatif au sein de l'établissement de garde et de l'éducation de l'État. Ce projet soutenu par la MONUSCO avec des fournitures et des matériels scolaires vise à offrir une seconde chance aux enfants placés dans cette structure. L'objectif est qu'à leur sortie, ils puissent contribuer positivement à la vie de leur communauté. Guylaine Kassassia nous en dit plus.
Ce projet, qui s'inscrit dans la durée, est d'une grande importance car la place de l'enfant est avant tout en famille et à l'école, explique Sefou Kambale Kialiré, directeur de l'EGE Beni.
Vous savez que d'abord, la place de l'enfant, ce n'est pas à l'EGE, mais c'est aussi de la famille ou soit à l'école. Et vous voyez que les enfants qui sont ici placés à l'EGE, ils ont droit à tout. Pour dire qu'avec le projet de la MONUSCO, c'est un projet vraiment que j'encourage beaucoup parce qu'avoir l'intérêt de l'enfant, l'enfant a aussi le droit aux études.
Grâce à Paluku Kassai Claude, chargé des opérations et programmes au sein de l'ONG, locale, marchant ensemble et sûrement dans l'assistance scolaire et humanitaire. Mesas et encadreur principal revient sur les cours clés de ce programme.
Nous mettons l'accent grave sur l'éducation civique et morale, sur l'éducation à la paix et citoyenneté, sur l'éducation du civisme et sur l'éducation à la vie, de telle sorte que la femme sorte d'alléger en ayant déjà un comportement changé. Ces cours sont agrémentés par d'autres cours des cultures générales. Et à part ça, nous mettons aussi un accent sur l'enseignement des langues, le français et l'anglais.
Actuellement, l'établissement des gardes d'éducation de l'État EGE Beni héberge 42 enfants, dont deux filles. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
À Kinshasa, le club Zaïda Catalan pour la paix et la sécurité appelle à soutenir les initiatives locales de subsistance pour contrer les effets du changement climatique sur la paix et la sécurité dans l'est du pays. Lors de la présentation de résultats d'une étude sur les climats, la paix et la sécurité menée par l'ambassade de Suède en RDC. La représentante de l'organisation a lancé cet appel. Cette recherche réalisée par l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm met en lumière les effets du changement climatique sur les tensions sécuritaires et communautaires au nord et au sud Kivu. Judith Maroyi, participante à cette étude, souligne que la mauvaise gestion de l'environnement dans cette zone des a contribué aux inondations meurtrières des Nyabukubi il y a 2 ans. Elle insiste sur l'importance de cette étude pour la RDC au micro de Ronelyne Timbonera.
Il y a 2 ans, une catastrophe est arrivée. On a déplacé ces gens de Bouchouchou dans une concession d'une personne. Et 2 ans plus tard, on ne leur a pas donné où aller. D'abord, les concessionnaires commençaient à réclamer sa place. Et là où ils étaient, les enfants des déplacés dus aux catastrophes de Bouchouchou, n'allant plus à l'école, leurs parents n'ayant plus des champs pour cultiver, ces enfants sont allés voler dans les maisons. Un enfant a volé, c'est pas une poule, des chèvres, et ça a été source de conflits. Des gens ont failli se tuer à la machette. Et cette recherche a démontré comment les questions de changement climatique sont intimement liées à la paix et la sécurité, d'où l'intervention des uns des autres, donc qui travaillent dans les domaines de peace building, de toujours insérer ou parler de la question du climat, en ce sens que c'est intimement lié et ça peut soit aggraver la situation ou le favoriser.
Comme indiqué dans les titres au Congo central, hier vendredi marque le début d'une campagne de sensibilisation à Matadi visant à appliquer les mesures prises pour mettre fin aux embouteillages dans la ville, organisée à l'intention des transporteurs et des entreprises de véhicules poids lourds. Cette initiative est soutenue par le gouvernement provincial via sa division de transport. La campagne est menée dans les rues de Matadi par la mairie, la police des circulations routières et la Commission nationale de prévention routière. Selon le maire de Matadi, l'objectif est d'inciter les transporteurs à respecter les mesures prises par l'autorité urbaine pour lutter contre les embouteillages, notamment l'interdiction de stationner sur les artères et l'évacuation des véhicules et épaves abandonnés sur la chaussée. Dominique Nkodia Mbete explique l'essence de cette sensibilisation dans une déclaration recueillie par Nana Plurich Mambo.
Mais nous remarquons que la plupart des propriétaires des véhicules poids lourds n'ont pas de garage. Dans la ville, ici, il y a beaucoup de véhicules abandonnés qui traînent le long de la voie principale. Donc, tous ces véhicules abandonnés et les épaves ne facilitent pas la fluidité de la circulation entre véhicules. Nous, au niveau de la ville, nous avions déjà pris des dispositions, mais maintenant nous sommes là renforcés par l'exécutif provincial pour voir comment désengorger la ville de Matadi. Nous avons également retenu un site où tous les véhicules abandonnés seront gardés. Il y a un véhicule autogris du gouvernement provincial qui existe déjà, qui va faire ce travail. Et on a également trouvé des véhicules porte-chars qui vont commencer à transporter les véhicules jusqu'au site retenu comme fourrière. Cette fois-ci, ce sont des mesures qui vont être appliquées sans faille. Et les chauffeurs qui stationnent là doivent oublier ces habitudes-là. Parce que maintenant, nous trouvons votre véhicule. Si la voie principale, nous venons, nous remarquons, nous amenons à la fourrière. Les véhicules abandonnés, nous amenons également à la fourrière. Un véhicule que nous avons amené là-bas pour les récupérer, des amendes, des fortes amendes en tout cas. Et pour les épaves, nous allons donner un délai. Dépasser ce délai, votre épave continue à rester au niveau de la fourrière. Nous la détruisons et nous la vendons comme un mitraille.
Dans la province de la Tchopo, la délégation syndicale de la RVA Kisangani appelle à l'intervention du vice-premier ministre et ministre de transport pour résoudre le conflit opposant la RVA à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat Kisangani. Ces deux services opérants à l'aéroport international de Bangoka sont en conflit permanent avec des scènes de violence ayant déjà fait des victimes. Pour instaurer un climat de paix dans les installations aéroportuaires, la délégation syndicale de la RVA sollicite l'intervention de leur ministre des tutelles, Jean-Pierre Bemba Ngombo. Voici un extrait de la déclaration lue par Mulongo Kazadi, délégué syndical principal de la RVA Kisangani, sélectionné par Jacques Moukonkole.
Ayant vécu un climat très tendu entre la RVA et la Metelsat, et vécu des scènes de violence de la part des agents de la Metelsat Kisangani, soucieux de préserver la paix sociale à l'aéroport de Kisangani-Bangoka, nous déclarons ce qui suit. 1. Demandons au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, de convoquer la commission qu'il a mise en place pour résoudre ce conflit. 2. Nous nous opposons à toute initiative tendant à brader les redevances et taxes RVA ainsi que son patrimoine immobilier à Kisangani. 3. Demandons que soit délocalisé le bureau du Metelsat qui doit quitter le bâtiment administratif de la RVA. 4. Soutenons les initiatives de la direction générale de la RVA pour endiguer cette crise causée par la Metelsat Kisangani. 5. Soutenons la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône la paix sociale.
Retour au Congo central où une nouvelle société d'exploration minière, Kerit Ressources, s'installe à Luozi. Elle vient de signer un protocole d'accord avec les services géologiques nationaux du Congo. Cet accord marque un investissement de Congolais dans leur propre pays, contribuant au développement territorial. Ce partenariat promet la création de nombreux emplois et une valorisation significative de ressources locales. Compte rendu de Jeff Ngoy.
Ce partenariat vise à promouvoir l'entrepreneuriat local et à faire émerger de véritables capitaines d'industrie congolais, selon le directeur général de SGNC, Raoul Wazenga.
C'est pour nous une grande joie de pouvoir signer ce protocole d'accord avec une société de droit congolais, Kerit Ressources. Cet accord représente pour le service géologique un accompagnement avec un partenaire local, un partenaire national, qui va devoir aider sur le plan technique et financier à ce que nous puissions intensifier la recherche géologique sur deux zones de recherche géologique qui se situent dans le territoire de Luozi, dans le Congo central.
Le directeur général de Kerit Ressources, Félix Amouna, souligne l'importance de cet investissement à capitaux 100% congolais.
Donc nous nous sommes approchés de la direction générale pour pouvoir mettre nos ressources ensemble pour exploiter et explorer. Mais ce qui est important et ce qu'il faut souligner, c'est que nous n'y allons pas en tant que simple faire-valoir. C'est que nous investissons sont dans l'exploration. Donc, nous sommes une société de droit congolais.
Ce partenariat stimule donc la création d'emplois et le renforcement de l'économie locale.
Dans la province du Tanganyika, la coordination provinciale de PDL 145 territoires a publié hier vendredi une note d'information technique détaillée sur les 91 infrastructures prévues. 27 sont déjà finalisées. Malgré les défis majeurs, le progrès sont tangibles et le rythme de livraison des infrastructures s'accélère. Le détail avec Paulin Munanga.
Cette note d'information technique sur les suivis de la mise en œuvre des activités du PDL 145 territoire précise que dans la province du Tanganyika, il est prévu la construction de 52 écoles primaires, 33 centres de santé et 6 bâtiments administratifs. Concernant l'avancement des travaux, 27 infrastructures sur 77 en cours sont finalisées dans la province du Tanganyika. Parmi les contraintes et défis majeurs, la note d'information cite notamment les contraintes logistiques liées à l'inaccessibilité de plusieurs sites en raison du mauvais état des routes ou d'inondations, une forte pluviométrie et les vents du lac rendant dans la plupart des cas la navigation impossible. Il y a les contraintes techniques et humaines comme l'insuffisance de la main d'œuvre qualifiée, en l'occurrence les plombiers, les carreleurs, les menuisiers et les ajusteurs, souligne la note d'information technique du PDL 145 territoire. La note précise que les prochaines étapes sont entre autres le démarrage des 14 infrastructures restantes, la réception technique des 15 infrastructures et la poursuite des travaux dans tous les territoires. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Chine appelle ses ressortissants à quitter immédiatement le Soudan. Une décision qui intervient après la publication d'un rapport mettant en cause Pékin dans la fourniture indirecte d'armes aux paramilitaires soudanais. Selon Amnesty International, les bombes utilisées par les paramilitaires des forces de soutien rapide au Darfour et à Khartoum sont des fabrications chinoises. Selon Amnesty International, les bombes ont pu être identifiées grâce à l'analyse d'images de débris retrouvés après plusieurs attaques. D'après l'ONG, ces armes seraient livrées par les Émirats arabes unis au groupe paramilitaire en violation de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU, rappelle Emric Elouan, chargé de plaidoyer chez Amnesty International. Les Émirats arabes unis ont rejeté ce rapport d'Amnesty International. Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de preuves, a déclaré le ministre adjoint de la Sécurité et aux Affaires militaires dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux par le ministère émirien des Affaires étrangères.
L'invité.
24 cas positifs et un décès. Tel est le dernier bilan de l'épidémie de peste bubonique et pulmonaire qui sévit depuis avril dans la zone de santé de Réti, territoire de Djougou, province de l'Ituri. Ce chiffre a été communiqué le lundi 5 mai par le docteur Gustave Lossa, médecin coordonnateur du centre de surveillance et de lutte contre la peste en RDC. Le docteur Lossa souligne que les efforts de partenaires, notamment l'ONG international malteser, ont permis de limiter la propagation de cette maladie. Il en parle avec Jean-Claude Loki Dile. Suivez.
Docteur Gustave Lossa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À ce stade, quel état de lieu dressez-vous de l'épidémie de la peste dans la zone de santé de Réti? Selon nos informations, 22 personnes sont déjà atteintes de cette maladie dans la zone.
Oui, en effet, ce qu'il faut retenir, c'est que la zone de santé de Réti, c'est une zone endémique de peste. D'ailleurs, même l'année passée, en 2024, ils en ont eu plus que ça. Mais cette année-ci, ça a commencé quand même avec un effectif qui est réduit. C'est pour vous dire que les chiffres que vous avancez là, ça c'est le nombre que nous avions eu au premier trimestre. Il y avait eu 22 cas et pas de décès. Aujourd'hui, par exemple, comme nous venons de la Réunion, nous avons 24 cas et on a eu un premier décès à la semaine 16. Ce décès-là, c'était dû à une forme septicémique.
C'est-à-dire
le germe s'étend sur l'ensemble du corps, ça envahit l'ensemble du corps et l'individu meurt subitement. Ce sont des formes graves, comme la forme pulmonaire aussi. Mais s'il n'y a pas prise en charge, l'individu meurt rapidement dans les 24 à 48 heures.
Et qu'est-ce qui explique chaque fois la résurgence de cette maladie dans cette partie de la province de l'Ituri? Précisément le territoire de Djougou. Certaines personnes lisent cette situation avec les retours de la saison pluvieuse. Est-ce que c'est votre constat? aussi?
La saisonnalité, c'est ce qu'on constate, mais c'était une épidémie qui a commencé l'année 2024 et qui se prolonge. Parce que c'est aussi les mêmes aires de santé qui continuent à notifier les cas.
Qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge de malades? Avez-vous assez de stocks de médicaments, par exemple, pour soigner toutes ces personnes? Qui vous appuie dans cette lutte pour stopper ou limiter la propagation de la maladie?
Pour ce qui est de la prise en charge, en fait, sincèrement, nous devons remercier l'ONG Materzer International. Parce que c'est cette ONG-là qui nous dote en médicaments de prise en charge depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y a trois formes. La forme bubonique, la forme pulmonaire et septicémique. Mais tous les malades qui ont eu la forme bubonique, on les a récupérés en totalité à cause de cette prise en charge précoce. Quand nous voyons même là, en 2024, ils ont eu plus de décès. La zone de santé avait notifié, je crois, 10 décès. Mais les 8 là étaient des décès communautaires. Ils sont décédés dans la communauté avant de venir au niveau des structures. Et les deux autres là sont décédés à peine arrivés à la structure. En moins de 24 heures, ils sont décédés. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la communauté et de la sensibilisation de la communauté. Pour que dès que.
Justement, parce que vous parlez de la communauté. Comment vous associez les membres de la communauté dans cette lutte pour vous appuyer dans la sensibilisation, par exemple? Quel message vous leur passez, sachant que la zone est aussi très fréquentée par la population pour diverses raisons?
Oui, c'est vrai. Il y a toute une série d'actions qu'il faut mener au niveau de la communauté. D'abord, en commençant par l'assainissement, bien sûr, parce qu'il faut que les milieux soient sains pour éloigner le plus possible les rats. Hein, les rats qui sont les réservoirs. Et puis, ce sont plus les puces qui transmettent la maladie pour le moment. Et parce que quand les puces transmettent la maladie, c'est la forme bubonique que vous présentez. Et il y a des signes qui s'annoncent. Et quand vous arrivez précocement, dès qu'il y a ces signes-là, à ce moment-là, on vous prend en charge et vous êtes guéri. Et vous êtes guéri en moins d'une semaine. Même, disons, tout au plus 10 jours. Parce que la peste n'est pas une maladie chronique avec laquelle vous traînez pendant des années durant, non. Donc c'est une semaine, 10 jours, et puis c'est fini.
Est-ce qu'il se permet aussi de palper ou de toucher le corps des malades ou des cadavres? Ça aussi, n'est-ce pas, c'est danger?
Oui, c'était danger pour toucher le corps du malade, parce que quand vous touchez le corps du malade, surtout quand ce sont des décès, là vous avez beaucoup de risques de vous contaminer directement.
Docteur Lourça, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, journaliste, parce que vous me donnez l'opportunité d'informer le public.
Docteur Gustave Lossa, médecin coordonnateur du Centre de surveillance et de lutte contre la peste en RDC, s'entretenait avec Jean-Claude Lo qui dit sur l'épidémie de peste bubonique et pulmonaire qui sévit depuis avril dans la zone de santé de Réti, territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est ainsi que se clôture ce journal sur Radio Okapi. Nous vous remercions de votre fidélité, espérons vous retrouver pour une nouvelle édition et à très bientôt.